Je vous dis juste un tout petit mot en tant que responsable de cette maison, le Centre Sèvres, pour vous souhaiter la bienvenue. Voilà, bienvenue à vous pour cette soirée autour de la communauté de Thésée. Je suis vraiment très très heureux que cette soirée se tienne ici. Tout à l'heure, à table, vous rappeliez, monsieur, que les premières prières de Thésée ont eu lieu dans l'église Saint-Ignace, juste à côté, dans les années 60. Voilà, c'était les premières prières de Thésée sur la place parisienne, apparemment, hein. Voilà. Et depuis, ben, je crois qu'on peut dire que les liens ont continué à... ont continué, voilà. Et qu'il y a notamment une chose qui nous rapproche en profondeur, c'est le désir de, d'un dialogue œcuménique qui permette d'aller vers l'unité des églises. Une unité de plus en plus réelle, de plus en plus forte. Voilà. Donc, eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, eh bien, moi, je vais y assister, d'ailleurs. Et puis, à plus. Voilà.
Merci beaucoup, Père. Est-ce que j'ai le droit d'enlever mon masque au moment où je parle, là? Mais oui, bon, très bien. J'essaie de faire au mieux. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus pour cette soirée effectivement consacrée à la communauté de Thésée, à l'histoire de la communauté de Thésée. Une communauté profondément originale, on pourrait dire presque un ovni dans le monde catholique et plus encore protestant, mais un ovni qui en 80 ans a acquis un impressionnant rayonnement international. Je ne sais pas si c'est votre cas à vous dans la salle, comment vous connaissez Thésée ou pas. Combien de centaines de milliers de jeunes ont prié dans l'église de la Réconciliation, participé à l'une de ses sessions, l'une des rencontres européennes, ou se sont nourris des paroles de frère Roger. La communauté ne fait pas ses 80 ans, sans doute parce qu'elle est fréquentée surtout par des jeunes ou des anciens jeunes, on pourrait dire. Même ses frères, il y en a aussi d'autres un petit peu dans la salle, semblent posséder le secret de l'éternelle jeunesse. Comment en serait-il autrement quand ils sont sans cesse bousculés par les nouvelles manières de penser, de croire, d'agir, de se dire chrétien, de ceux qu'ils accueillent chaque jour dans leur église ou sous leur chapiteau? Comment pourraient-ils se sentir dépassés par le monde dans lequel ils vivent quand ils échangent le matin avec des Allemands, à midi avec des Polonais ou des Espagnols, et le soir avec des Brésiliens ou des Syriens, tout cela dans le plus perfect English, of course. Et pourtant, 80 ans, n'est-ce pas un bel âge pour se poser, regarder en arrière le chemin parcouru, analyser les options prises par les fondateurs, ce qu'elles sont devenues, observer les tournants pris face à une difficulté ou à la suite d'un appel fortement ressenti, contempler les accélérations, comme les coups de frein, eux-mêmes souvent liés à des accidents de l'histoire avec un grand H. Bref, relire toute l'aventure depuis ses débuts entre la Bourgogne et le Genevois. Dans ce travail de relecture, les frères ont eu la chance de recevoir l'aide d'une historienne qui est là avec nous, Sylvia Scatena, auteure de ce précieux essai qu'elle va nous présenter ce soir, que je vous montre, mais qui est aussi là-bas, je crois, sur la table. Thésée, une parabole d'unité, histoire de la communauté, des origines au Concile des jeunes, aux éditions Brépol. Fruit de longues années de recherche, elle nous le racontera tout à l'heure. Mais les frères ont eu aussi l'intelligence de se laisser aider et analyser. Ils ont accepté et même encouragé le travail de Sylvia Scatena, lui ouvrant largement leurs archives. Peut-être que frère Charles Gène nous racontera les heures passées à classer les cartons de frère Roger. Et les frères lui ont aussi consacré de précieux entretiens. Au Centre Sèvres, on sait depuis longtemps l'importance de ce regard extérieur, éclairé par les sciences sociales. Aujourd'hui, c'est toute l'Église et notamment les communautés nouvelles qui en découvrent le caractère vital. Loin de désenchanter le projet de Roger Schütz, le livre de Sylvia Scatena éclaire plutôt le petit miracle quotidien que constitue Thésée, ce mystère de communion. Et après l'avoir lu, je trouve que l'on goûte encore plus les mots de frère Roger que le frère Charles Eugène a réunis dans cet ouvrage, le dernier volume de la collection des écrits de frère Roger. Alors vous ne voyez peut-être pas de votre place, si tout commençait dans la confiance, 1984-1990. Donc c'est le deuxième ouvrage dont on va parler ce soir. Voilà, donc très brièvement, je vous présente ceux qui vont accompagner notre parcours ce soir. Alors, je commence par vous, Sylvia Scatena. Donc, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Modène et également collaboratrice de la Fondation pour les sciences religieuses Jean XXIII de Bologne. Quant à vos recherches, vous les avez consacrées plus spécifiquement à l'histoire du Concile Vatican II, à sa réception en Amérique latine, et enfin à l'histoire de l'œcuménisme. Vous étiez faite pour rencontrer Thésée à un moment dans vos recherches. Vous allez nous raconter comment ça s'est fait. Christophe Chalamet, vous êtes professeur à la faculté de théologie de l'Université de Genève, et protestant vous-même, vous êtes spécialiste de l'histoire de la théologie protestante récente, et notamment de l'œuvre de Karl Barth. Et vous êtes un ami, je ne sais pas si on dit un compagnon de route de Thésée, et vous avez signé la préface de l'ouvrage de Sylvia Scatena. Et frère Charles Eugène, vous détenez un peu de la mémoire de la communauté, dans laquelle vous êtes entré en 1958, m'avez-vous confirmé tout à l'heure, avant le Concile Vatican II. Et vous avez été longtemps le secrétaire de frère Roger, et c'est à vous que l'on doit l'édition de ses écrits aux presses de Thésée, et notamment ce dernier volume qui regroupe ses écrits entre 1984 et 90, une période charnière pour la communauté et pour l'Europe, dont vous allez nous parler tout à l'heure. Et je passe tout de suite la parole à frère Aloïs, que l'on ne présente plus, je dis à tout hasard pour ceux qui ne sauraient pas, qu'il est le prieur de la communauté de Thésée et donc le successeur de frère Roger, mais je ne pense pas que beaucoup de vous l'ignorent. Et il va nous dire en quelques mots comment la communauté a accueilli ce projet d'un travail historique sur elle-même et comment il a aussi accompagné ce projet. Voilà. Donc,
oui, merci beaucoup. Anne-Bénédicte Hoffner, elle ne s'est pas présentée elle-même, mais nous vous remercions d'avoir pris le temps. Vous avez tellement de travail comme directrice adjointe de la rédaction au quotidien de la Croix et vous avez accepté d'animer cette soirée. Et merci beaucoup pour cela. Merci au père Étienne Grieux et à toute l'équipe du Centre Sèvres de nous accueillir ici. En effet, nous sommes proches et nous avons eu la prière vendredi passé dans l'église Saint-Ignace où nous nous sentons chez nous, dans cette église qui est accueillante, priante, même le lieu est priant. Et puis, merci bien sûr à Sylvia. C'est un long cheminement qu'elle a fait, plus de 10 ans de temps de recherche et nous sommes très reconnaissants pour ce travail que nous avons maintenant et que Christophe Chalamet est venu de Genève aussi. Merci à tous. Je me souviens de la rencontre avec Sylvia Scatena en novembre 2008 à Rome. C'était à Rome en 2008. Vous avez fait un travail là, vous avez travaillé à cette époque sur le Concile Vatican II et sa réception en Amérique latine, et vous aviez fait cela. Et vous avez trouvé qu'en Amérique latine, il y a beaucoup de liens entre Thésée, frère Roger, et la communauté de Thésée, avec les églises latino-américaines. Et ça vous a intrigué. Et vous avez dit, mais vous pouvez peut-être imaginer de faire un travail plus large sur Thésée à partir de cette découverte Thésée en Amérique latine. Alors au début, votre projet nous a mis devant une perplexité parce que frère Roger n'avait pas souhaité garder des archives. Alors on a déjà parlé des cartons, il y avait des papiers dans des cartons, mais il a jeté beaucoup de choses, pas grand chose. Il y a des correspondances où il y a seulement les lettres de frère Roger, mais il n'y a pas les retours. Donc, en même temps, nous étions de plus en plus conscients que les biographies qui existaient n'étaient pas suffisantes. Et Et voilà, pour la première fois, une historienne se proposait de faire un travail académique basé sur les méthodes de la recherche, en premier lieu en identifiant et en consultant les sources. Et à la réflexion, tel regard extérieur sur la communauté et sur notre histoire nous a semblé précieux et même indispensable. Pour la continuité de la vie de notre communauté, il est très important que nous sachions avec précision, précision la plus possible, d'où nous venons. Nous sommes alors très heureux d'avoir aujourd'hui en français, 3 ans après la parution en italien de la biographie, de l'avoir maintenant entre nos mains en français. Et je dois dire que j'y ai découvert moi-même certains éléments de la vie de Frère Roger et de l'histoire de la communauté qui jusque-là ne m'étaient pas apparus aussi clairement. À cet égard, j'aimerais encore juste donner 2 impressions personnelles. D'une part, j'ai mieux réalisé combien il a été difficile pour Frère Roger de faire comprendre ses intuitions et ses options aux responsables d'Église, protestants comme catholiques. Des deux côtés, les oppositions étaient parfois dures. Tout en restant discret sur ses difficultés, Frère Roger en a souffert. Et d'autre part, le livre met bien en lumière combien l'intuition fondamentale de Frère Roger, une vie communautaire qui soit signe d'Évangile, combien cette intuition fondamentale a évolué, prenant des formes très différentes selon les époques et les contextes. Et j'y étais très attentif car cela nous encourage aujourd'hui à faire preuve d'imagination pour continuer à adapter notre vie aux exigences du futur. Et nous sommes heureux que les textes de Frère Roger sont réédités maintenant aussi. Déjà heureux pour nos jeunes frères qui n'ont pas connu Frère Roger. Nous avons maintenant une génération qui entre dans la communauté et qui n'a pas connu Frère Roger. Donc il est très important de pouvoir se référer aux textes de Frère Roger qui soient disponibles et puis à un livre d'histoire. Voilà, j'en reste là pour le moment.
Merci beaucoup, Frère Louis. Je ne pensais pas, mais en même temps, je comprends tout à fait que ce soit possible que vous ayez appris des choses sur la communauté de Thésée. Mais ça montre en même temps à la fois la qualité, la profondeur du travail de Sylvia Scatena et son importance aussi pour vous comme prieur et puis pour toute la communauté, quoi, d'entrer vraiment effectivement en profondeur dans l'histoire de ses origines. Merci beaucoup de nous avoir dit avec vos mots l'importance de ce travail. Christophe Chalamet, est-ce que vous accepteriez de nous dire, vous, maintenant, en quelques mots, comme théologien, comme protestant, qu'est-ce qui vous intéresse, au fond, dans ce projet de Thésée? Et quel regard vous portez, sur ses origines et puis sur son évolution?
Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. J'étais très honoré que Sylvia Scatena me propose d'écrire une préface. Il faut d'ailleurs que tu m'expliques pourquoi tu m'as invité à faire cela. Je n'ai pas encore compris. Mais voilà, c'était une grande joie de lire cet ouvrage. Moi, Thésée me fascine depuis très longtemps. J'ai découvert Thésée comme adolescent, comme beaucoup de jeunes d'Europe et au-delà de l'Europe. Je me préparais à la confirmation. Donc, j'étais jeune adolescent quand mon pasteur genevois nous a emmenés en Bourgogne. Nous étions à Mazy pour le week-end. Je dois avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Et nous sommes allés à Thésée un samedi soir. C'était en décembre, peut-être 86, quelque chose comme ça. Et ça a été un émerveillement. Et ça m'a mis en route. Ça m'a vraiment mis en route vers la confirmation. Disons, ça a donné un sens nouveau, beaucoup plus profond, je pense, à la décision de recevoir la confirmation, de faire ma confirmation. Et puis, ça m'a conduit à la théologie, à tout ce qui a suivi. Et ce soir-là, ce samedi soir-là, de décembre 86, je ne suis pas sûr de la date, au sortir de la prière, nous rencontrions le petit groupe de jeunes, frère Charles Eugène. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Voilà. Donc voilà, bon, alors voilà, ça c'est un petit témoignage comme il y en aurait des milliers d'autres. Et c'est ça qui m'émerveille à propos de Thésée, c'est cette pastorale auprès de la jeunesse, c'est d'avoir anticipé, en quelque sorte, cette réalisation que toute une jeunesse aspire à faire une expérience de l'Évangile, à faire une expérience du partage, de la prière, du silence. C'est comme si Thésée avait anticipé ce que nous travaillons un peu en théologie, notamment en théologie pratique, cette soif d'expérience. Au-delà des dogmatismes, au-delà des réflexions pointues théologiques, c'est pas ça dont veulent les jeunes. Ils veulent faire une expérience de la grâce, ou si on veut le dire avec un mot théologique qui n'est pas trop employé à Thésée, et probablement à juste titre. Voilà, donc moi c'est cette pastorale qui m'émerveille et qui me fascine, à vrai dire, parce qu'il y a dans notre Europe, où les églises sont quand même un peu palottes et sont dans un affaiblissement marqué, rapide, en quelques décennies, en un demi-siècle, imaginez que Thésée n'existe pas et où nous serions si Thésée n'existe pas. Parfois, il faut penser, c'est comme ça parfois que je me dis, mais où serions-nous si Thésée n'existait pas? Au niveau de la transmission de la foi, il y a quand même une transmission remarquable de la foi qui s'est opérée et qui s'opère sur cette colline à partir aussi des rencontres, etc. Donc il y a une réflexion à mener. Je trouve qu'elle est très peu menée dans les institutions théologiques pour réfléchir, pour penser cela. Puis évidemment, il y a cette quête de l'unité qui est là dès le départ, au cœur même de ce projet communautaire. Choisir comme nom pour cette Église, en 1962, l'Église de la réconciliation, c'est quand même un choix majeur, fondamental, et qui doit nous relancer dans cette quête de la réconciliation entre chrétiens séparés. Ça me rappelle peut-être cette petite anecdote de Karl Barth qui est à Rome, après le concile, il était malade, il n'a pas pu y aller pendant le concile. Et puis il parle avec le pape, avec Paul VI, et il lui dit « Fratres, c'est juncti, frère séparé ». Mais « Fratres, c'est juncti ». On est bien d'accord, c'est « Fratres, c'est juncti ouais. ». Voilà, donc ça c'est quelque chose dont on peut faire l'expérience à Thésée. Frères et sœurs, certes séparés sur certains points, mais frères et sœurs. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est peut-être terminer avec une expression d'une profonde gratitude et reconnaissance pour cette communauté, voilà, et ses membres. Et une profonde gratitude pour Sylvia qui a fait un travail absolument remarquable. C'est une première. Et ce livre va faire date. Ça va être le livre de référence pendant très, très, très longtemps. C'est un ouvrage remarquable d'érudition, mais aussi de compétences, d'analyse historique. C'est un ouvrage majeur. Que je vous recommande vivement. Merci.
Merci beaucoup, Christophe Chalamet. Sans parler des compliments que vous adressez à la fin à Sylvia Scatena, mais en tout cas, je comprends tout à fait pourquoi elle vous a demandé à vous la préface. Je trouve que ce que vous avez dit au début montre effectivement, oui, la compréhension que vous avez de ce projet unique, de cette parabole d'unité. Alors, Sylvia Scatena, maintenant, on a envie de vous entendre, vous, finalement. On a parlé de ce livre majeur, de tout ce qu'il apporte. Effectivement, le fait que rien de tel n'existait avant, rien d'équivalent. Il y a beaucoup de choses qui ont été publiées par les presses de Thésée, des écrits de frère Roger, des biographies, mais pas encore de travail historique, vraiment, donc fait au sens de fait par une historienne avec une approche historique des archives. Est-ce que vous nous feriez, alors on ne va pas vous demander de résumer le livre, donc vous avez tous vu que c'était une somme importante, on ne va pas vous demander de le résumer, mais de nous raconter l'histoire de cette histoire de Thésée. Comment est-ce que vous avez rencontré votre sujet? Sur quelles archives vous vous êtes appuyé? Quelle époque avez-vous choisi d'étudier et pourquoi? Et quelles ont été peut-être vos difficultés? On a parlé des problèmes du rapport de frère Roger aux archives, mais et aussi vos plus grandes surprises peut-être pendant ce travail, ce long travail.
Tout d'abord, excuse-moi pour mon français, donc c'est pour ça que je préfère de, j'ai préparé un texte parce que improviser en français peut-être aurait été trop difficile pour moi. Donc tout d'abord, merci à tous, à Frère Louis, à Christophe, bon à tous et au centre Serre qui nous accueillit, à vous, Mélanie. Je pensais en effet de partager simplement quelque chose de l'histoire de cette histoire, de dire un peu comment elle est née, avec quelle intention et option de fond, et s'est déroulée au fil des années, en fait, plus ou moins 10 années. Et comme cela arrive parfois, l'idée de cette recherche est née sans une intention ou un projet précis. À l'automne 2008, justement, comme Frère Alice vient de recorder, il était à Rome avec d'autres frères, dont Frère John, pour les signaux sur la parole de Dieu. Quand ils étaient là, j'ai téléphoné un jour à Frère John qui, pour lui saluer, car il était le frère de la communauté que je connaissais le mieux, pour ses introductions bibliques, pour ses visites en Italie. Et pendant l'échange, je lui demandais, entre autres, si la communauté avait pensé à ce qu'elle voulait faire avec sa propre histoire, après la mort de Frère Roger. On connaissait en effet l'allergie, on peut dire, du fondateur de Thésée aux archives, ça craint que leur conservation contrecarre cette dynamique de provisoire qui lui tenait au cœur pour caractériser l'expérience de la communauté. Au-delà des expériences et de nombreux souvenirs personnels liés à Thésée, à partir notamment de la rencontre de Prague en 1990, j'avais en effet croisé à différentes reprises quelques séquences de l'histoire de la communauté. En étudiant l'histoire du Vatican II avec l'équipe de recherche dirigée par Giuseppe Alberigo et ensuite en faisant justement une recherche sur l'histoire de la conférence de Medellin en 1968. Au long de mon parcours, j'avais lu et entendu dire à plusieurs reprises, en particulier, je dois dire, dans le monde académique français, il s'agissait en réalité plutôt d'un regret que l'histoire de Thésée était encore à écrire. Pour citer, après les grands volumes de Tien Fouillou de 1982 sur l'histoire de l'œcuménisme catholique francophone, un volume bien connu de Denis Pelletier en 2002. Dans le milieu scientifique, la bibliographie disponible sur Thésée était généralement considérée plutôt comme apologétique ou journalistique ou version de l'anecdotique. Les livres d'Olivier Clément, par contre, Thésée en sens à la vie, jouissait par contre d'une autre considération pour l'estime indubitable envers le nombre de ces théologiens. Quand je posais donc la question tout à fait par hasard à Frère John des intentions de la communauté par rapport à sa propre histoire, il me demanda à son tour si à Bologne il avait éventuellement quelqu'un qui serait intéressé à cette recherche. Sans réfléchir, je répondis tout de suite à la question de que cela pourrait bien m'intéresser. Je venais en effet de terminer une pleine immersion en Amérique latine et je venais juste de demander un congé de 3 mois à l'université pour aller au Brésil. Frère John me proposa alors d'aller à Rome rencontrer les frères dans l'appartement de Via del Plebiscite où Frère Roger et d'autres frères de la communauté avaient vécu pendant les années du Concile Vatican II. C'était la première fois que je me rendais dans cet appartement que je connaissais des renoms, on peut dire, suite à l'étude de l'histoire de Vatican II. Et c'était la première fois aussi que j'ai rencontré Frère Charles Eugène, sans savoir qu'il s'agissait de la première d'une longue série. Je connaissais d'ailleurs le refrain selon lequel Thésée n'avait ni les archives ni l'histoire, et j'ignorais aussi la parution de 2 premiers livres qui venaient juste alors de sortir après la mort de Frère Roger, qui inaugurait à bien des égards, une nouvelle saison dans la littérature sur la communauté, à savoir l'histoire de Thésée de Jean-Claude Escafite et Moïse Rassiwala et la biographie de Frère Roger écrite par Yves Chiron. Ce dernier Chiron voulait se distancier de la légende, comme il l'appelait, autour de Frère Roger en faisant une recherche dans les archives, les rendant, pour ainsi dire, à l'histoire. Mais sans savoir étrangement consulter aucun archive protestant, sauf celle de la faculté de théologie de Lausanne, où les Jean Roger avaient étudié. À ma surprise, j'appris aussi des frères Charles Eugène que son auteur n'était jamais allé à Thésée. Les jours suivants, donc, j'achetai ces volumes à la procure à Rome, et commençant à les lire, j'en compris vite les raisons des questions qu'il posait. Il m'apparut en effet comme une biographie à thèse, voulant remontrer, même si quelques chapitres étaient intéressants, que depuis son enfance, les chemins du fondateur de Thésée avaient été de manière plus ou moins consciente un chemin de rapprochement progressif vers le catholicisme. L'auteur n'avait pas pu, en d'autres termes, à mon avis, éviter de recourir à une approche et à une grammaire confessionnelle qui apparaissait, à mon avis, tout à fait inadéquate pour exprimer la spécificité de la vocation écuménique de Frère Roger et de Thésée. De ces premiers échanges, j'ai trouvé chez Frère Charles Lejeune une attitude par rapport à l'histoire tout à fait différente de celle que j'avais imaginée par rapport au travail historique qui desécherait ce qui est vivant. Je peux ainsi parler très librement avec lui de l'importance d'une reconstruction historique aussi rigoureuse que possible de l'itinéraire de la communauté, correspondant au rôle que Thésée avait réellement joué dans le christianisme et dans l'œcuménisme européen et non seulement européen. Et cela en utilisant justement les instruments humbles et rigoureux à la fois d'un travail historique, à savoir rechercher les sources, les croiser, les interpréter, tout en essayant de les placer sur un arrière-plan plus large, recueillir aussi les témoignages, les filtrer, les comparer, etc. À ma surprise, Frère Charles Lejeune me dit aussi qu'il venait juste de commencer, après la mort de Frère Roger, un travail de réorganisation des archives de la communauté. Et la mort tragique de Frère Roger, du fondateur, en 2005, avait évidemment changé un peu l'attitude de Thésée envers sa propre histoire. En 2011, une édition de textes fondateurs aurait lancé significativement une nouvelle collection qui atteint désormais le 9e volume avec ce volume-là. Si tout commençait dans la confiance. En outre, l'âge très avancé de nombreux témoins et des efforts captatifs semblables à ceux de Chiron ne permettaient pas de trop retarder un travail d'historicisation. Donc, à la veille de mon départ pour le Brésil, je dis alors au frère de parler dans la communauté de cette hypothèse de recherche sur sa propre histoire, car il était clair pour moi qu'une recherche sur Thésée, donc sur quelque chose de bien vivant, de très vivant, ne pouvait pas être ni possible ni fructueuse, qui est bien sûr en toute autonomie, mais en même temps, évidemment, dans un climat de collaboration et de confiance envers mon travail. Et avec les reculs de temps, je peux dire que vraiment, je m'étonne encore de toute la confiance qui m'a été accordée dès les premiers moments par la communauté, par Alois, qui venait juste de me rencontrer. Donc voilà. Et je lui ai proposé alors de nous revoir après le conseil de la communauté en janvier, après mon retour du Brésil. Et après les réactions à Bologne aussi, que je devais quand même consulter sur mon engagement de recherche. Et en tout cas, Frère Charles Lejeune me suggéra une fois au Brésil d'aller rencontrer la fraternité d'Alagoinas. Notamment Frère Michel, un frère d'origine allemande, entré dans la communauté en 1959, tout en poursuivant son doctorat en sociologie à Paris et installé au Brésil depuis fin 66. Avec le recul du temps, cette proposition a été fondamentale, car le moment où j'ai vraiment pris conscience de mon intention de commencer cette recherche, c'était bien le Noël de 2008, quand je me suis rendue en effet à Alagoinas, chez cette fraternité, implantée dans une ville pauvre de la Bahia. Là, je perçois en effet concentré les visages de l'Église que jamais les plus, et grâce auxquels, dans mon parcours personnel, j'avais pu continuer à me sentir appartenant pleinement à l'Église. On pouvait en effet comme toucher du doigt la réalité d'une intense participation communautaire, typiquement brésilienne, la beauté et la force de chant de la liturgie et de chant de Thésée écoutés pour la première fois enculturés dans la réalité pauvre du nord-est brésilienne. Je me souviens bien de l'entretien avec frère Michel, les partages sur la liturgie des communautés de base, sur la situation de l'Église au Brésil, et finalement l'échange aussi sur l'idée d'une recherche sur Thésée. Il m'a dit qu'il était déjà au courant de l'intention d'un travail dans les archives. Et sans vraiment comprendre s'il était au fond content ou pas, je me souviens quand même bien de ces mots. En ce cas, je préférerais un travail sur la création communautaire de notre frère. Cet entretien à Lagoinhas m'a beaucoup marqué. À plusieurs égards, cette rencontre allait en effet me confirmer dans une sorte d'option spontanée qui avait été sous-jacente au moment de mon premier échange avec le frère Aaron. C'est-à-dire l'option pour une recherche avec un sujet pluriel, communautaire, plutôt que pour une recherche de type biographique centrée sur la seule personne de frère Roger. Au fond, ce qui m'intéressait plus, c'était d'essayer de comprendre comment un petit groupe de jeunes étudiants suisses avait réussi non seulement à tenir, mais aussi à durer, en ayant choisi, dans les années de la guerre, un projet de vie qui allait tout à fait contre-courant de leur propre tradition ecclésiale, de leur propre milieu, etc. Pendant, ou aussi après la Seconde Guerre mondiale, en effet, on enregistra bien une efflorescence communautaire interprotestante, mais ces expériences n'ont pas toutes duré longtemps. Il fallait bien de la confiance, donc à propos de la confiance, pour oser commencer un pari communautaire comme ça. Ce qui m'intéressait surtout, c'était en d'autres termes essayer de reconstruire la manière dont cette première expérience de communauté cénobitique masculine, née en terre réformée, est bientôt devenue à plusieurs égards le centre monastique de l'écuménisme spirituel francophone, grâce à la rencontre décisive de frère Roger puis de Max Turian avec les pères couturiers, était parvenue à devenir, tout de suite après Vatican II, les points de rencontre d'une sorte d'église écuménique en gestation, très mal à l'aise avec les étiquettes confessionnelles traditionnelles. Comment un projet communautaire un peu fou, pour reprendre les mots de Christophe Chalamet dans la préface, avait pu prendre forme en pleine guerre mondiale et acquérir une telle capacité d'interroger plusieurs générations dans des cadres géographiques confessionnels les plus différents, en devenant, pour ainsi dire, l'épivot créateur d'un langage, au sens fort, à la rigueur, pour ainsi dire, d'une sorte de koiné qui accompagne la recherche et les partages d'un essentiel de la foi, naturellement situé sur l'horizon d'une catholicité radicalement inclusive. Tout ça en essayant de situer les événements les plus marquants de l'histoire de Thésée dans l'histoire plus large du mouvement écuménique au XXe siècle. Un placement de l'itinéraire de la communauté sur ce fond plus large m'a paru en effet, depuis le début, comme une exigence intrinsèque d'un travail qui voulait être proprement historique. Voici donc les deux options de fond. D'un côté, l'attention à l'entrelacement de biographies, au résultat à long terme un mouvement de la rencontre entre l'incontestable force charismatique de Roger Schütz au moment de l'invention de la communauté, un jeune étudiant en théologie, à son regret, par-dessus de son père, pasteur de l'Église nationale vaudoise, et la rencontre de lui avec d'autres personnalités très différentes, pour lesquelles on peut dire que leur première ascèse fut tout d'abord celle de leur propre diversité. Et de l'autre côté, une attention privilégiée pour la dimension proprement écuménique de cette histoire, plutôt qu'un focus de type plus sociologique, un peu dans l'allure de la sociologie religieuse française. C'était au fond cette dernière option qui a également suggéré le terminus ad quem, le point d'arrivée de ma recherche, une recherche qui, d'autre part, ne pouvait pas trop s'approcher chronologiquement au présent, en raison de la nécessité de toute recherche historique, donc pas sociologique ni théologique, de maintenir une certaine distance par rapport au présent. Il s'agissant avant tout, dans ces cas, de la réalité d'une communauté bien vivante. Le choix du terminus ad quem est donc tombé sous le tournant entre la fin des années 70 et le début des années 80. Il s'agit en effet du tournant où on peut saisir les points d'arrivée depuis lors resté, à mon avis, je ne sais pas, c'est à mon avis, à bien des égards inchangé de la trajectoire écuménique de Thésée, du point d'atterrissage tout à fait singulier, de l'évolution du positionnement confessionnel de Frère Roger, et à sa suite d'emblée, même si avec de décalage inévitable, de sa communauté. Je me réfère à ce que le fondateur de Thésée appela en 1981, citation, la voie évangélique de l'immédiateté, pour une réconciliation immédiate, à réaliser avec une démarche inévitablement personnelle, une voie qu'il présenta à plusieurs reprises comme une transfiguration de sa propre vocation écuménique, anticipant, citation, en sa propre personne, en sa chair, ce qui n'était pas permis par les structures durcies de l'Église. C'est une citation de Passion de l'Unité. Après 40 ans de durs combats pour l'unité, comme il l'appela plusieurs fois, il s'agissait d'un point d'arrivée qui était d'un côté l'expression d'un besoin toujours plus fort, surtout après l'entrée dans la communauté des premiers frères catholiques en 1969, d'être reconnus au-dedans du périmètre de la communion de l'Église catholique, tout en refusant au même temps tout choix de reniement par rapport à ses origines protestantes. De l'autre côté, il était au même temps l'expression de la prise d'acte définitive d'impossibilité institutionnelle et doctrinale qui empêchait d'assurer au moins un gage palpable du chemin écuménique accompli au cœur du XXe siècle, à savoir le partage, au moins en certaines conditions, de la même table eucharistique, après les espoirs conçus au début des années 60. Il s'agissait en d'autres termes de la réaction à un écuménisme confessionnel bloqué, en se situant désormais sur un plan éminemment spirituel ou, pour ainsi dire, j'utilisais cette expression, méta-institutionnelle. Bien plus facile a été par contre au début la détermination du point de départ pour la reconstruction de ces premiers temps de l'histoire de la communauté. Ces points de départ coïncidaient en effet dans ma perspective avec les moments où les besoins des communautés de Roger Schütz d'un partage avec d'autres de l'étude, de la vie, de la prière commença à prendre forme vers la fin des années 30. La recherche devait donc essayer de reconstruire la manière dont les années des origines et au cours de la guerre, les projets d'une communauté résidente se dégageaient lentement au sein d'une nébuleuse plus large d'étudiants protestants suisses, insatisfaits de la vie de leur Église. Un projet qui commence en particulier à prendre forme à partir de la rencontre, pas toujours facile, entre les recherches personnelles et les priorités différentes des frères Roger, de Max Turian et de Pierre Souverain. Il aurait donc fallu suivre les diverses virtualités du projet original des frères Roger, qui se serait ensuite développé et articulé différemment au long du déroulement de l'histoire de Thésée. En suivant le fil chronologique de ces projets communautaires singuliers depuis son commencement, mon personnel pèlerinage de confiance dans les archives et à la rencontre de témoins a donc commencé. C'est aussi vraiment un pèlerinage de confiance dans les archives. Un pèlerinage qui m'a porté tout d'abord en Suisse, entre Lausanne, Genève et Grandchamp, et qui s'est ensuite poursuivi à Lyon, à Paris, à Athènes, à Rome, puis à Berlin, à Prague, etc. Un pèlerinage passionnant, qui trouvait toujours soit un point de départ et d'arrivée dans les archives de Thésée, mais aussi dans les entretiens avec beaucoup de frères. Je ne pouvais pas imaginer vraiment, au début, les niveaux d'implication, aussi sur les plans plus personnels, qui découleraient de tous les rencontres que j'ai faites sur la colline et ailleurs, en suivant les traces du rayonnement de la communauté, par suite de liens nourris, par les visites des frères aux chrétiens des cadres géographiques et confessionnels les plus divers, et notamment grâce à la présence des petites fraternités, il y a ce soir quelqu'un des Pantins, des petites fraternités hors les murs, plus ou moins provisoires, si importantes et toutefois plutôt méconnues dans l'histoire de Thésée. Des expériences dont une étude s'imposait à mes yeux pour prendre mieux conscience du signe qu'elle avait pu laisser dans plusieurs églises locales. de l'Algérie en guerre, au Brésil de la dictature militaire, des ghettos noirs de Chicago, à l'Afrique du Sud, d'un Berlin divisé à l'Union soviétique, aux autres pays au-delà du rideau de fer. Les uns au cœur de l'Église, les autres au cœur des masses. Tension tonifiante, sauvegarde incontestable. C'est une citation de Frère Roger dans une page de journal de 1953. Après pas mal d'années de travail, il m'est paru que vraiment, l'un des traits les plus nouveaux et les plus saillants de l'histoire de Thésée a été justement cette capacité d'intégration empirique sur la colline et dans les fraternités d'une variété significative d'orientations, d'expériences, de recherches, au fond, dans certains cas, aussi des vocations, on peut dire. Comme j'essayais de l'écrire dans les conclusions du volume, il s'agit d'une synthèse unique qui a été, à bien des égards, la résultante de la recherche initiale complexe d'une forme protestante de vie commune qui voulait éviter les raccourcis d'une simple imitation du modèle monastique catholique. À des chrétiens de la RDA, elle rappelait de manière significative la combinaison bonaifférienne entre vie contemplative et action non religieuse. Il s'agit d'une synthèse en constante évolution, dans l'esprit d'une règle pour laquelle l'immobilité est une désobéissance sur le chemin à la suite du Christ. Une synthèse qui a cherché, au fil du temps, avec un certain pragmatisme et quelquefois nos intentions, des points d'équilibre différents, sous la poussée d'aspirations successives, souvent coexistantes et différentes dans leur impact et dans leur durée. Je pense en particulier à l'aspiration plus studieuse et port-royaliste des origines, de toute évidence liée au milieu d'étudiants ou les premiers projets communautaires du genre responsable de l'Association chrétienne des étudiants de Lausanne avait pris forme, à l'aspiration plus franciscaine de la période de Genève pendant la guerre, à celle plus clairement et explicitement monastique des années de la profession et de l'écriture de la règle, à l'aspiration un peu foucauldienne, on pourrait dire, qui pendant les années 50 s'est traduit par le différent effort de la communauté pour trouver sa propre manière de vivre l'impératif de l'incarnation partagé par toute une génération chrétienne passée par l'expérience de la guerre. Et je pense encore à l'inspiration tiers-mondiste, liée surtout à la rencontre au Concile Vatican II avec Manuel Larraín, El del Camara et les responsables latino-américains de ce qui s'appelait l'Église des pauvres. Enfin, je pense à l'inspiration plus spécialement pastorale qui est devenue dominante à partir des années de la refondation, on peut dire, de la communauté après les 68 de jeunes et des églises, ainsi qu'ensuite à une nouvelle insistance sur la dimension proprement contemplative pour laquelle seront très importants tous les liens tissus avec les chrétiens de l'Europe de l'Est. Plusieurs frères et la communauté dans son ensemble furent très investis dans cet effort qui permet évidemment de mieux comprendre ensuite la projection de Thésée sur un horizon européen de plus en plus allergique à toute frontière. Les tissages patients d'un réseau de contacts, de liens d'amitié et de solidarité avec les chrétiens et les églises de l'Europe de l'Est, pour lesquels à nouveau il a vraiment fallu de la confiance, m'est apparu depuis le début un chapitre décisif dans l'histoire de la communauté. J'appartiens au fond, comme Christophe, à la génération qui avait environ 20 ans, au moment de la chute du mur de Berlin, et qui a découvert Thésée et son tout particulier art de la rencontre lors de premières rencontres européennes dans des pays de l'Est, Wroclaw, Prague, Budapest. Mais après les premières explorations dans les archives de Berlin et de Prague, je me disais comment faire vis-à-vis de tous ces pays de langue difficile. Comment étudier le différent impact des liens avec Thésée dans les contextes si divers de tous ces pays. D'ici, en parlant plusieurs reprises avec les frères, commença à prendre forme l'idée de former un petit groupe de personnes de ces différents pays pour essayer de rassembler, de reconstruire les nombreuses pièces de l'incroyable mosaïque de toute cette histoire. un groupe donc a pris forme en 2014 et on espère maintenant entrevoir les portes d'arrivée pour partager ensemble les fruits de tous les travaux qu'on a fait pendant les années. Et donc, étant donné que dans ce volume-là, il y a pas mal de textes de Frère Roger qui ont été adressés justement aux chrétiens, aux églises du pays de l'Est, je donne la parole peut-être à Frère Jalugin. Excuse-moi si j'ai passé les temps.
C'est parfait, Sylvia, vous avez été parfaite. Merci infiniment de nous avoir partagé votre pèlerinage de confiance dans les archives de Thésée. Alors là, c'est vraiment une très très belle formule que vous avez trouvée pour nous raconter ce travail et la manière dont vous l'avez construit, et même, je dirais, oui, l'intelligence avec laquelle vous l'avez construit, avec ce choix, non pas de vous focaliser seulement sur une biographie du frère Roger, qui est après tout l'un des fondateurs, ou le fondateur principal, mais comme vous l'avez dit, pas le seul, mais de retracer l'histoire de l'ensemble de la communauté. Merci beaucoup de nous l'avoir raconté, avec aussi, en montrant comment cette histoire de Thésée a croisé votre histoire à vous. Historienne. Alors, frère Charles Eugène, on imagine que vous vous êtes plongé avec intérêt, bon, même si vous n'avez pas tout découvert, on comprend bien dans le livre, puisque vous avez contribué à votre manière à ce travail. Vous avez dû vous plonger avec intérêt dans l'ouvrage de Sylvia, mais sans doute aussi avec émotion. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez, comme frère Aloïs, appris des choses dans le livre, vous allez nous dire. En tout cas, là, ce soir, la transition est parfaite, puisque, en fait, le livre que vous publiez, ce dernier volume des écrits de frère Roger qui paraissent aux presses de Thésée, en fait, prend la suite, en termes chronologiques, du travail de Sylvia Scatena. Et effectivement, donc, ce sont des écrits de frère Roger entre 1984 et 1990. Donc, est-ce que vous nous diriez, donc, qui s'appelle « Si tout commençait dans la confiance », donc un mot qui, évidemment, est revenu de façon très normale ce soir, plusieurs fois. Est-ce que vous nous diriez, frère Charles Eugène, comment est-ce que ce mot de confiance est entré dans l'histoire de la communauté, et notamment dans cette période-là qui était si importante pour l'histoire et de Thésée et de l'Europe ?
Oui. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que avant de répondre à l'appel de la vie en communauté, frère Roger avait ressenti, déjà tout jeune, déjà dans son adolescence, comme il le disait, une vocation d'écrivain. Et il a toujours aimé écrire, jusqu'à la fin de sa vie. Il a publié un bon nombre de livres, mais il souhaitait tellement vivre dans le moment présent qu'il ne voulait pas que ses livres durent trop longtemps. Donc, bientôt, il les trouvait moins adaptés à la situation du moment et il les laissait s'épuiser pour les remplacer par un nouvel ouvrage. Mais après sa mort, il nous a semblé nécessaire et important de rendre à nouveau accessibles tous ses écrits. De plus, il n'a pas seulement rédigé des livres, mais aussi articles, interviews, méditations, prières, lettres collectives, pages de journal personnel au cours d'une vie qui a été très longue. Donc tout cela représente un ensemble abondant et c'est tout cela que nous réunissons peu à peu dans des petits volumes et il y en aura 10, en tout il y en aura 10 publiés année après année depuis 2011 dans l'ordre chronologique. Et tout récemment, c'est le 9e qui vient de sortir, donc celui dont on a parlé déjà plusieurs fois. Et celui-là, si on en fait une présentation peut-être un peu particulière, c'est qu'il nous semble résonner vraiment particulièrement avec le temps actuel, notamment par ce titre sur la confiance, si tout commençait dans la confiance. Ce 9e volume, il contient un bon nombre de textes inédits et il recouvre ces années, donc 84 à 90, qui a représenté une période extraordinairement dense pour le fondateur de notre communauté. Comme Sylvia l'a déjà dit, à travers ces récits qui paraissent dans ce livre, on le voit jusqu'à la chute du mur de Berlin franchir plusieurs fois le rideau de fer, pour rejoindre des chrétiens, des jeunes en particulier, dans leur situation qui était très difficile à ce moment-là. En Allemagne de l'Est, invité par l'Église luthérienne, en Pologne, par l'Église catholique, en Russie, hôte de l'Église orthodoxe, en Yougoslavie et en Hongrie, pour animer des rencontres Est-Ouest de jeunes. Et quand le régime lui interdit de prendre la parole publiquement, alors il dit aux chrétiens, « Je viendrai quand même chez vous et je me tairai avec vous. » Dans certaines pages du livre, on le voit partager pour un temps la vie des plus pauvres, à Madras, en Inde, au Sahel mauritanien, où il a en particulier une rencontre mémorable avec un spirituel musulman. Ce livre montre aussi comment il collabore avec Mère Teresa, qu'il connaissait bien, comment il accueille à Thésée le pape Jean-Paul II, ou bien le président Mitterrand, ou bien le commissaire Péan de l'armée du salut, pour dire quelques exemples un peu particuliers. Et aussi comment il va voir, avec des enfants de plusieurs continents, le secrétaire général des Nations Unies pour demander désarmement et engagement pour la paix dans cette période où de fortes tensions menaçaient l'équilibre entre nations et la paix mondiale. Toute cette activité qui, dans ces années-là, s'est beaucoup élargie, ne l'éloigne en rien, bien sûr, de sa vocation première, c'est-à-dire être, avec les frères de la communauté, des témoins du Christ vivant, ou, comme disait Christophe, communiquer la foi aux nombreux jeunes qui viennent à Thésée, accompagner les nouvelles générations dans leur recherche de Dieu. Et cela apparaît vraiment depuis la première page jusqu'à la dernière page du livre. Que ce soit dans son journal personnel ou dans ses messages aux frères ou dans les lettres qu'il écrit publiques aux jeunes. Frère Roger est pasteur avant tout. Et à cette époque, son souci pastoral, c'est de voir se produire dans ces années-là, comme il disait, un ébranlement des valeurs spirituelles provoquées par des chocs successifs. D'abord les événements de 1968, puis aussi la pensée de ceux qu'on a appelés les maîtres du soupçon. Et alors, frère Roger voudrait réhabiliter quelques valeurs toutes simples de l'Évangile, et d'abord, surtout la confiance. La confiance en Dieu, bien sûr, mais aussi la confiance en l'être humain. Et la crise de confiance qui règne alors dans cette période le préoccupe tellement qu'il est amené à formuler cette conviction. Les chrétiens ne peuvent pas être des maîtres de l'inquiétude, mais bien des serviteurs de la confiance. Et ça, c'était vraiment sa préoccupation, ne pas être des maîtres de l'inquiétude, mais des serviteurs de la confiance. Et le théologien orthodoxe Olivier Clément l'avait très bien vu quand il écrit « La confiance, c'est un mot clé à Thésée ». Et il disait un mot humble, quotidien, simple. Et c'est ainsi que naît, dans ces années-là, l'idée de mettre sur pied, avec les jeunes, un pèlerinage de confiance à travers la terre, que notre communauté continue à animer jusqu'à aujourd'hui. Ce pèlerinage qui a de multiples formes, depuis la plus individuelle, la démarche de confiance d'une personne vers une autre personne, jusqu'aux dimensions les plus vastes, des rencontres qui peuvent réunir des milliers de jeunes. Et lors de ces rassemblements de jeunes, la rencontre européenne de Paris en 2002, le philosophe Paul Ricoeur était présent. C'était un ami proche de Frère Roger, de notre communauté. Et quelqu'un a demandé à Paul Ricoeur quel message il percevait dans cette rencontre de jeunes. Et il a répondu, « Le message que je perçois, c'est « Ne construisez pas votre vie sur la peur. » C'est ça qu'il avait perçu. Et c'est peut-être sur ce point-là que le petit livre de Frère Roger rencontre l'actualité aussi d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il est facile de jouer sur la peur, sur les peurs, de les réveiller ou de les accentuer. Mais si la peur est au commencement de tout, alors on ne va rien oser entreprendre, on ne va prendre aucun risque et on va s'enfermer dans ce qui semble assurer une sécurité. Et Frère Roger invite exactement à suivre le chemin inverse. Pour lui, la foi est une toute simple confiance en Dieu et elle donne le courage de dépasser les peurs et de prendre des risques. Et elle devient aussi la confiance dans les autres et puis aussi la confiance en soi-même, la confiance dans les dons que Dieu a déposés en soi-même. Si tout commençait dans la confiance, cette parole de Frère Roger, qui a été donnée comme titre à ce 9e volume, ces paroles sont bien dans sa manière. Frère Roger n'était pas directif. Il ne disait pas à son interlocuteur « tu dois faire confiance ». Non, il ne parlait pas comme ça. Il interrogeait plutôt le vis-à-vis. Il lui suggérait « si tout commençait dans la confiance, si la confiance du cœur était au commencement de tout, si tu éloignais la peur et le découragement, que t'arriverait-il ? Et c'est à toi de terminer la phrase.
Merci mille fois, frère Charles Eugène, de nous avoir si bien introduit dans ces nouveaux volumes des écrits de frère Roger. Donc, au final, ce qu'on peut vous dire avant de passer à vos questions, vous voyez, vous avez devant vous deux livres très différents, mais tous les deux très importants, donc on ne peut pas vous aider à choisir entre les deux. Il faut lire les deux. On va pas vous en conseiller un plutôt que l'autre. Ils sont tous les deux très différents et extrêmement utiles et nourrissants. Alors, après ces présentations, et quand même pour vous laisser la parole, on peut passer. Ah oui, c'est un frère qui va passer au milieu de vous. Vous pouvez poser toutes vos questions, soit en les adressant spécifiquement à l'un de nos intervenants, et si c'est une question générale, on se chargera entre nous de trouver la personne qui y répondra. Merci beaucoup à tous de vos questions.
Merci infiniment pour ce travail et d'avoir organisé cette soirée. Je suis très heureuse d'être là. Je m'appelle Jane Strans, je suis pasteur d'une petite paroisse luthérienne dans la banlieue parisienne. J'ai deux questions pour Sylvia, plutôt. Ma première question est une question un peu comme ça. Je n'ai pas encore lu le livre parce que je ne lis pas l'italien et je n'ai pas encore acheté la version française. Ça va pas tarder. Mais j'ai une question qui concerne, est-ce que vous avez employé une historiographie œcuménique, une historiographie catholique ou une historiographie protestante peut-être en faisant l'histoire de Thésée? C'est la première question. Et puis, une méthodologie. Est-ce que vous avez employé une méthodologie œcuménique ou une méthodologie confessionnelle, on va dire, pour ça? Et la deuxième question, j'aurais bien voulu que vous puissiez nous dire un tout petit peu plus concernant l'Europe de l'Est. Vous avez parlé de la République démocratique d'Allemagne. Il se trouve que j'habitais en République démocratique d'Allemagne pendant que le mur était en train de chuter et j'ai chanté les prières et les chants de Thésée pendant ce temps-là. Il se trouve à Wittenberg, dans l'église de Martin Luther. Et nous ne savions pas que le mur allait chuter après. Et pour moi, Thésée est très lié à ce temps-là, de quelque chose qui s'est passé et où les gens avaient confiance que leur chant allait apporter quelque chose. Et je trouvais très intéressant ce que vous avez dit concernant Bonhoeffer à ce moment-là. Et j'aurais bien voulu vous entendre un tout petit peu plus à ce sujet-là.
Alors, je ne suis pas sûre que j'ai bien compris la première question. J'ai entendu bien la deuxième sur la méthodologie, la troisième sur l'Europe de l'Est, etc. Mais la première, c'était...
La première était la deuxième concernant la méthodologie.
OK, donc, voilà, j'ai travaillé en tant qu'historienne. Donc, évidemment, j'ai utilisé des livres de théologie œcuménique et tout ça. Mais mon approche, c'était, on peut dire, entre guillemets, un peu positiviste. Donc, je suis vraiment partie de sources, de l'étude des témoins, comme je viens de dire. Et donc, vraiment, j'utilisais, c'est-à-dire les instruments aussi de la théologie œcuménique au fur et à mesure qu'il était utile pour essayer justement de reconstruire, mais d'un point de vue historique, vraiment, l'histoire de Thésée. Évidemment, on a croisé toujours de questions tellement importantes, je pense surtout à la question de l'Eucharistique, etc. On a croisé évidemment tous les travaux aussi des Max Turian dans le groupe des Dombes, on a croisé les textes du groupe des Dombes sur l'Eucharistie en 1972 qui avait été édité justement à Thésée quelques mois après, et donc qui a été aussi, on peut dire, la base à partir de laquelle l'évêque d'Autun, qui était le bourgeois, était parti pour donner laquelle eucharistique à tous les frères de la communauté. Donc, on a vraiment croisé pas mal de choses, toujours d'ombre, ça c'est clair, mais ma perspective, donc ma méthodologie était vraiment peut-être, je suis trop simpliste si vous voulez, mais simplement historique. Donc, j'ai touché des questions de théologie sacramentelle, peut-être quelquefois ici ou là, des questions, mais en tant qu'historien. Et donc, de mon côté, pas de soucis historiographiques confessionnels, donc j'utilisais les livres catholiques, protestants, bon, ce n'était pas vraiment un problème, une question pour moi, donc... Tout d'abord, il y avait les sources et après l'historiographie ou les livres de théologie, mais seulement au fur et à mesure où il était utile pour essayer de comprendre le déroulement ou ce qui s'est passé dans l'un ou l'autre moment de cette histoire. Donc, je ne sais pas si la même chose s'est passée évidemment avec les archives. Catholique, protestant ou orthodoxe dans le cas, mais vraiment la question confessionnelle n'était pas un problème, une question. Bon, sur l'Europe de l'Est, c'est vrai que c'est un chapitre passionnant. Je le dis, peut-être ma connaissance de la communauté de Thésée est arrivée à Prague, justement, à la rencontre européenne. Je me souviens tellement bien de l'impact sur moi avec la rencontre, les étudiants de Prague qui venaient juste de quelques mois de sortir de... Bon. C'est une histoire qui a commencé déjà peut-être pendant les années 50, pour ceux qui se réfèrent à la RDA, mais qui a connu, comme dire, un élargissement incroyable dans les années 60. Donc, les travaux sur l'histoire de Thésée dans les pays de l'Est couvrent surtout 30 années, les années 60, 70 et 80. Déjà, au début des années 60, il y a eu les premières visites en cachette, on peut pas dire clandestines, mais vraiment en cachette, soit en Hongrie, soit en Roumanie aussi, et après, en Pologne, par contre, la rencontre décisive de la communauté avec l'Église polonaise s'est passée surtout au Concile Vatican II, là où il y avait eu la rencontre avec les évêques de Pologne qui étaient là. Donc, pour chaque pays, il y a des histoires différentes. Le réseau, la manière où la communauté a rencontré le chrétien, l'Église de tous ces pays a été très différente. Évidemment, les liens étaient plus forte avec l'Allemagne de l'Est, parce qu'il y avait des frères allemands qui venaient de là, et surtout il y avait un frère, Christophe, qui avait été prisonnière pendant la guerre en Union soviétique, donc il avait songé depuis longtemps d'avoir la possibilité d'aller rencontrer les chrétiens de ce pays. mais très tôt, on commençait aussi les visites dans les pays orthodoxes. Depuis la première visite en Bulgarie, c'était déjà au début des années 60 en Bulgarie et maintenant et en Serbie. Il y avait la visite de Frère Roger qui venait de rentrer de Constantinople où il avait rencontré Athénagoras. Donc vraiment, c'est une histoire très écuménique parce que les liens, il y avait le lien avec toutes les églises, soit les églises orthodoxes des pays de Balkans, avec les églises luthériennes de la RDA, avec les églises catholiques de. C'est difficile de dire en quelques mots. Mais non, mais là-bas, là-bas, dans les volumes, en fait, dans les volumes, il y a seulement la reconstruction de la construction de liens pendant les années 60-70. Mais après, on espère d'avoir un peu un récit plus panoramique de tout ce qui s'est passé dans tous ces pays, jusque justement la chute du mur de Berlin et tout de suite après. Tout d'abord, il y aura le travail de ces groupes. Il y avait ces groupes avec des personnes différentes de chacun de ces pays. Et donc, je vais essayer de faire une panoramique générale sur cela. Mais c'est vrai que c'est une histoire très, très passionnante. Parce qu'il y a des récits et des histoires qui mérite vraiment d'être connu, si on le doit aux chrétiens qui ont beaucoup risqué souvent pour tout ça. Et donc je ne sais pas, excuse-moi, Jean, c'était, vous avez touché un point.
Bonsoir, merci pour la qualité de votre prestation. J'avais une question, puisque vous avez étudié donc l'histoire de la communauté et de Frère Roger. Il a, même si les choses ont évolué au cours du temps, il a voulu témoigner de l'évangile par une vie communautaire, si j'ai un peu compris. Et comment se fait-il, je ne vois pas le lien, comment se fait-il que ce soit surtout des jeunes qui viennent à Thésée? Est-ce que j'ai pas vu Frère Roger faire un appel spécifiquement aux jeunes? Enfin, c'est un peu. Quel est le lien, en fait, de la venue des jeunes? Aujourd'hui encore, ce sont surtout des jeunes. Quand on va à Thésée, c'est majoritairement des jeunes, alors qu'on aurait pu penser que ce soit des générations qui évoluent au fil du temps, quoi.
Bonne question. Frère Aloïs, vous voulez peut-être...
Bah, c'est une question pour nous aussi. Et puis, je pense que maintenant, on est dans un moment où des jeunes amènent des jeunes. Et parfois des jeunes qui sont pas tellement enracinés dans l'église comme ça, mais ils arrivent, des jeunes, à amener leurs copains et puis de faire cette expérience. Il y aurait plusieurs réponses. Une réponse est sûrement la capacité d'écoute de Frère Roger pour les jeunes. Et cette confiance, pour revenir au thème, confiance qu'il a mis dans la jeune génération à un moment où c'était plutôt la méfiance envers les jeunes qui grandit. Et Frère Roger a pris l'option contraire, cette confiance aux jeunes, à leur imagination, leur capacité, et c'est aller très loin, de leur donner une place dans l'Église. Il y aurait d'autres réponses à donner, mais...
Oui, en plus, elle n'est pas facile à atteindre. Il faut vraiment vouloir y aller pour y aller, parce qu'il faut prendre le train, le bus. Il y a des bus, oui. Mais l'idée n'était pas du tout, en effet, l'idée n'était pas du tout d'accueillir des jeunes. Du point de vue historique, peut-être, à vrai dire, nous non plus, on ne s'explique pas beaucoup. Mais une part peut-être de l'explication du point de vue historique, c'est que Thésée est devenue connue grâce à Jean XXIII, grâce au Concile Vatican II, parce que Jean XXIII a mis l'écuménisme à l'ordre du jour dans l'Église catholique, Et donc, à ce moment-là, beaucoup de regards se sont tournés, sans qu'on l'ait prévu et sans que nous l'ayons cherché, se sont tournés vers Thésée, puisque Thésée était un lieu d'écuménisme. Mais immédiatement après le Concile Vatican II, il y a eu la grande crise de l'Église, les événements de 68, les jeunes qui contestent tout ce qui est autorité, des hommes d'Église, des enseignants, des hommes politiques et même de la famille, même des parents. Et beaucoup de jeunes à ce moment-là viennent à Thésée et on avait un peu cette impression à ce moment-là que c'était un dernier essai qu'ils faisaient de vie d'Église. Ils rejetaient beaucoup de choses et certains se disaient « on va encore aller voir à Thésée ». Et donc, Frère Roger s'est dit, il faut absolument accueillir ces jeunes, même si c'était une génération qui n'était pas facile à accueillir, parce qu'ils avaient des exigences, ils avaient beaucoup de questions, ils avaient beaucoup d'imagination. C'était passionnant, mais en même temps, c'était des fois assez compliqué de répondre à toutes les attentes qu'ils avaient. Et alors la chose quand même un peu mystérieuse pour nous, parce qu'à ce moment-là, on se disait, voilà, ils viennent parce qu'il y a cette situation de crise, mais ça ne va pas durer. Et c'est pour ça qu'on a construit certains bâtiments comme ça pour les accueillir, mais en se disant, Frère Roger disait beaucoup, on construit pour une génération, pas plus. Et puis, ça a continué. Et ça, c'est, pour nous, ça reste un peu mystérieux, parce que les jeunes d'aujourd'hui, évidemment, sont extrêmement différents des jeunes de 1980, extrêmement différents des jeunes de 1968, et pourtant ça continue. Et ça, c'est, pour nous, c'est difficile à expliquer pourquoi. On a pensé parfois que le Concile des jeunes, Frère Roger l'avait lancé par opposition au Concile des évêques. Et il y a eu beaucoup de malentendus à cet égard. Alors qu'en réalité, c'était le contraire. Il venait de participer comme observateur au Concile du Vatican pendant 4 ans, et il avait été tellement frappé par ce qu'il avait permis aux évêques qu'il avait vécu, aux personnes qu'il avait vécues, venant du monde entier, parlant beaucoup de langues différentes, ne se connaissant pas au départ, mais cheminant ensemble avec la durée, pas seulement juste pour quelques jours, mais pendant plusieurs années, qu'il s'est dit... il faudrait que pas seulement les évêques vivent cela, mais il faudrait que les jeunes puissent vivre aussi quelque chose comme ça. C'était les premières années où on accueillait des jeunes, et cette idée chercher ensemble, durer ensemble, pas seulement une ou deux journées, mais que ça dure, mais en même temps que ce ne soit pas un mouvement. Et c'est comme ça que l'idée lui est venue, mais faisons un concile des jeunes qui dure un certain nombre d'années, mais qui se termine. Donc qu'il ne soit pas une sorte de mouvement rattaché à Thésée, mais qui permette à des jeunes d'avoir une recherche dans la durée un peu la même que celle que les évêques avaient pu faire, surtout autour du thème de la vie chrétienne, la vie de l'Église.
Oui, pardon, excuse-moi. Ça a été aussi passionnant d'étudier la jeunesse de cette idée du Concile de jeunes, parce qu'il a pris pas mal de temps pour arriver à cette annonce. Donc, il y a un peu tous les cheminements de Frère Roger, notamment aussi de la communauté, mais dans ce cas, vraiment, c'était son cheminement personnel après le Concile Vatican II. Où il y avait vraiment un songe d'entrevoir vraiment ces gages eucharistiques qui après s'est à nouveau éloigné, et donc il avait comme la perception que d'être arrivé à une sorte de, on peut dire, coexistence pacifique. Donc il a essayé de trouver un chemin pour essayer de sortir de cette impasse. Donc, il avait dit que l'écuménisme avait touché les toits, les plafonds, excuse-moi, c'est une italienne, les plafonds. Et donc, il a cherché d'un côté avec, c'est-à-dire la solidarité avec les pays pauvres, donc ce sont vraiment toutes les années de l'engagement plus fort en Amérique latine, etc. Et d'autre côté, de faire ses paris sur la jeunesse pour aider un écuménisme bloqué à retrouver un élan après des années, tout d'abord de grand espoir et après un peu la, c'est-à-dire l'impression de, oui, d'être arrivé à un parallélisme confessionnel. C'est cette idée du parallélisme qui l'a touché beaucoup et donc ça a été un peu un long chemin. Non, c'est lui qui a conduit, l'a conduit du Concile Vatican II jusqu'à l'annonce du Concile de Jean. Donc c'est
une très bonne question. Les jeunes qui viennent à t'aider, leur profil, leurs envies, leurs...
Il y a Daniel Hervé Léger. Il y a quelque chose de Daniel Hervé Léger, oui. C'était un peu... Il s'agit de, des ouvrages centrés sur les soi-disant phénomènes taisés. Donc, c'est un peu avec une approche. Oui.
Bonsoir et merci pour cet échange. Ma question va... Exactement dans le même sens, du coup, merci d'avoir préparé le terrain. J'avais une question, le frère Aloïs, je crois, il a rappelé au début de son intervention cette perte de, d'intérêt de plus en plus important pour de l'Église auprès de la population, notamment des jeunes. Mais par contre, la dynamique est plutôt l'inverse quand on s'intéresse à Thésée. Moi, je me rappelle, par exemple, les dernières années, les années de ma licence, l'engouement était, année après année, la même, voire même un peu plus importante autour des Thésées. J'aimerais savoir comment est-ce qu'à Thésée, on arrivait à aller à contre-courant et intéresser année après année, contrairement à la situation générale de l'Église. Ce n'est pas qu'en Europe, partout, même... au Cameroun, d'où je viens, c'est le phénomène qu'on observe.
Qu'est-ce qu'il trouve ?
Je ne sais pas. Hein. Mais ce que je dirais, c'est qu'on ne fait pas de prêchi-prêcha à Thésée. On ne fait pas de grands discours qu'on balance à la figure des gens, du tout. On est plutôt dans une démarche d'accompagnement, de vivre quelque chose ensemble. Et puis, il y a quand même ce travail, les études bibliques du matin, hein, aux protestants qui pensent que Thésée s'est catholicisé, ils existent, hein, ils sont très nombreux. Il faut dire qu'il y a ce travail sur le texte biblique qui se fait chaque matin dans les études bibliques, de très belle qualité, simple, accessible. Donc le palier n'est pas trop haut. Mais il y a une vraie profondeur dans ce qui est communiqué, en vue ensuite d'un échange. Voyez, donc il y a quelque chose, il y a des intuitions qui sont communiquées, mais ensuite c'est partagé, c'est échangé dans un petit groupe. Donc, c'est pas frontal. Voilà. Et le seuil n'est pas trop haut. Les chants, on peut entrer dedans sans trop de difficultés. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études de musique pour rentrer dans le chant. Donc, il y a eu un souci et un soin. Et ça fait partie de l'accueil, je dirais, qui est prodigué sur la colline de Thésée. Un accueil aussi liturgique. Et je pense qu'il y a une part d'ascèse de la part de la communauté. Ça, c'est à eux de confirmer. Une sorte d'ascèse. Au sens où peut-être que certains membres de la communauté aimeraient plus de nourriture liturgique. Hein. On parlait au repas du chant des psaumes qui est un peu passé, qui n'a pas été mis comme ça aux avant-postes pendant certaines années, qui revient parfois aussi. Donc je pense qu'il y a une ascèse liturgique. Je ne sais pas si les frères confirmeraient cela.
Oui, c'est vrai. J'ai bien aimé le mot accueil liturgique parce que c'est à Thésée même, c'est peut-être dans la prière que nous accueillons surtout les personnes. Et souvent des jeunes disent à la fin d'une semaine, c'est le silence qui était important. Et ça, c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, les jeunes, il faut juste aller dehors, non? On n'a pas le silence. On fuit le silence. Et donc, c'est comme si, cette vie ensemble, oui, la prière, mais aussi le travail biblique, la communion, le travail ensemble, faire la vaisselle ensemble, la cuisine, le nettoyage, tout cet ensemble fait une expérience de communauté qui pose la question, mais comment c'est possible?
Comment c'est possible? Et alors là, il y a une ouverture vers la foi. Et je pense dans la prière, dans l'église, les jeunes apprécient justement qu'on ne leur dit pas tout de suite ce qu'il faut croire. Ils sont là. Et nous, on ne leur donne même pas une méthode comment vivre ces longs moments de silence. Et au début, c'est difficile pour beaucoup. Ils disent, mais je ne sais pas quoi faire avec silence, qu'est-ce que vous faites? Et puis, mais ils entrent dans ce temps comme un temps de « je peux être comme je suis, je peux me laisser accueillir ». Donc il y a cet accueil, et dans cet accueil, ils sentent qu'il y a quelque chose de spirituel, une profondeur, et pouvoir être comme on est, être accepté comme on est. Et, sans, comme Frère Charles Jeune a dit, même sans dire tu dois faire confiance. Non, on peut pas. À la fin de la prière du soir, nous restons dans l'église pour écouter ceux qui veulent parler personnellement. Il y a aussi des prêtres qui sont là pour la confession. Il y a des pasteurs, hommes et femmes, qui sont là pour écouter les jeunes aussi. Et cette écoute personnelle nous semble très importante, qu'ils aient la possibilité de parler d'eux-mêmes avec quelqu'un. Oui, à 16, oui. C'est vrai, il y avait ça n'allait pas de soi. L'évolution de la prière commune à Thésée, qui était beaucoup plus monastique, mais d'ailleurs dans le livre, c'est très beau, comment Sylvia montre un peu une tension entre une prière, la volonté d'une prière spontanée, mais aussi une prière qui peut durer et qui a besoin d'une forme de prière. Il y a toute une recherche qui est intéressante, qui se fait là à travers les années. Mais finalement, cette décision, dans les années 70, de vraiment adapter la prière aux jeunes pour qu'ils puissent, à l'assemblée, pour que tout le monde puisse participer. Et avec le chant, avec le silence, l'écoute de la parole. Et je passe, oui, à 16. Oui, on aimerait parfois des textes plus longs ou un psaume plus long. Nous sommes différents entre nous. Pour quelques frères, on peut peut-être parler d'à 16. Et, oui.
Oui, ma question ira vers Sylvia. voilà. J'ai énormément apprécié dans le livre votre façon de vous positionner par rapport au sujet. C'est une bonne distance. Une bonne distance à la fois de quelqu'un qui est complètement en sympathie avec son sujet et puis quelqu'un qui le regarde avec son métier d'historienne. Et qui donc n'est pas prêt à s'enflammer par rapport à ce qui se passe, avoir des épisodes grandiloquents par rapport à tel ou tel passage. Bon, donc ça, j'ai énormément apprécié cette distance. Mais alors ma question est la suivante, c'est que vous êtes quelqu'un qui connaissait Thésée, et puis en même temps. Vous avez fait des recherches dans les archives. Est-ce que cette façon d'aller à la quête de votre sujet dans les archives, ça a profondément modifié le regard que vous aviez au départ, ou bien au contraire, est-ce que ça a modifié votre façon de voir, de comprendre ce qu'était Thésée, frère Roger, au départ, avant de commencer la quête, avant de commencer la recherche dans les archives? Est-ce que c'est, au fond, le même personnage, la même communauté que vous aviez en tête au départ? Ou est-ce que de chercher dans les archives, ça vous a fait montrer, ça vous a fait découvrir une communauté et un frère Roger qui n'était pas celui que vous aviez en tête au départ?
Merci. Pour cette question, Tout d'abord, vraiment, j'oubliais combien de fois j'étais interrogée justement sur cette question de la distance. Chaque année, au comité scientifique, il y avait pas mal de gens qui me disaient, mais comment vous faites avoir la distance avec comment se passe avec d'un côté l'amitié, de l'autre côté la distance historique. Ça surtout dans le milieu francophone, français surtout notamment. Ce n'est pas en Belgique, mais surtout en France, ça se passait toujours. Et moi, toujours répondais, je l'ai dit vraiment depuis le début de l'introduction, en citant Saint Augustin, Nemonisi paramicitia conoscitur. Donc, pour moi, c'était toujours impossible de passer des années de ma vie à étudier quelque chose envers laquelle je n'ai pas, c'est-à-dire une sympathie. Non, au début, c'est vraiment quelque chose. Mais après, j'espère que ça n'empêche pas de garder une juste distance par rapport à ce sujet. C'est pour ça que je disais au début que par rapport au terminus aquam, je ne voulais pas trop m'approcher au présent. Mais vraiment, ça c'est une question qui m'a été posée tellement de fois. C'est vrai que la manière où j'avais... Donc, tout d'abord, je n'avais pas jamais parlé personnellement avec Frère Roger. Donc, je l'avais vu de loin, aux rencontres, mais je n'avais pas, jamais une rencontre personnelle avec lui. Donc, pour moi, on peut dire que j'avais lu pas mal de livres, pas mal de choses, mais c'est tout à fait autre chose. Je l'ai découvert pendant la recherche. Donc, les thésées que j'avais connues, c'était tout à fait, je peux dire, pas autre chose. Mais c'est un peu le point d'arrivée. Donc, je dis que ma première rencontre avec Thésée, ça a été au moment de la rencontre de Prague. Donc, tout ce que j'ai étudié, c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure pendant la recherche. Et le fait d'entrer, entre guillemets, au-dedans de l'histoire, de connaître les frères les plus âgés, qui autrement, je n'aurais jamais connu. Donc, ça a été vraiment un enrichissement incroyable. C'est-à-dire, c'est tout à fait autre perspective. C'est tout à fait. J'avais connu Thésée grâce via la liturgie, donc j'étais grandie avec le chant de Thésée, mais sans savoir presque rien de ces chants vénés, de toute l'histoire. Et ça a été vraiment tout à fait autre chose. Donc vraiment, ça a été une découverte. Parce que je connaissais Thésée de manière, mais je ne vais pas dire superficielle, mais en tout cas, c'était vraiment un autre type de connaissance. Par contre, entrer vraiment dans l'histoire depuis des origines, une histoire que je ne connaissais pas du tout. Donc pour moi, l'une des choses les plus difficiles, c'était au début d'entrer dans le milieu de la Suisse. Parce que pour moi, que j'étais italienne, je venais vraiment d'un pays à majorité catholique, d'entrer dans la diversité des cantons suisses, de comprendre la diversité qu'il y avait dans les cantons de Vaud entre l'église libre, l'église... Ça a été vraiment tout à fait une découverte. Les différences entre Neuchâtel, Genève, Lausanne, donc vraiment, je ne savais rien du tout, ni de Max Tourian, rien. Je connaissais les chants de Thésée, jamais bien Thésée, la prière, les rencontres, mais c'est-à-dire l'histoire d'une découverte de mon côté, tout à fait. Et aussi sur la question écuménique, je savais qu'il s'agissait d'une communauté écuménique parce que j'avais aussi étudié l'histoire du Concile Vatican II, mais ça a été tout à fait autre chose, autre expérience. Je ne sais pas si je réponds d'où un peu, mais on va continuer.
Ah. Merci beaucoup pour cette soirée de la Majesté du Japon. Je suis sur auxiliatrice avec Kikuyo qui est à côté de moi. Et du coup, je suis très reconnaissante envers la communauté de Thésée et voilà, qui envoie tous les ans le frère au Japon. Et donc, voilà, je pense à frère Guylaine. Et du coup, nous avons la joie de rencontrer aussi. Voilà, c'est de. Et aussi frère Hagnol qui est venu au Japon. Et ma question, c'est pour dire en quelques mots, là, c'est de, voilà, vous avez parlé d'une vie communautaire comme parabole de l'évangile ou parabole d'unité, ou bien le parabole de communion. Et de, quand on pense la vie communautaire, voilà, sont de, la vie monastique plutôt, voilà, sur le colline de Thésée, bien on pense à la fraternité que voilà vous avez mise en place dans plusieurs endroits. Et aussi je pense donc la visite donc au Japon par exemple c'est, voilà, tous les ans quand le frère vient donc c'est voilà c'est le style de la visite et voilà c'est du donc la visite ça donne un temps de l'attente aussi. Il y aura des retrouvailles, voilà, soit dans un an, dans deux ans. En tout cas, c'est du cette style. On va, frère, aux d'autres pays, sur la forme de visite. Ça, voilà. Donc, ça se trouve comment votre vie communautaire, donc, dans la mission de la communauté de Thésée, voilà.
C'est vrai, nous faisons beaucoup de visites, sauf maintenant pendant le Covid, là, tout cela est terminé. Et nous nous rendons compte que c'est un élément ecclésial extrêmement important de se visiter. Ça renouvelle quelque chose pour ceux qui sont visités et pour ceux qui visitent. Parce que nous avons attisé des échos de ces visites au Japon ou de notre frère Hagnol en Corée ou en Chine. Et c'est extrêmement vivifiant et peut-être ça existait dans l'Église toujours plus ou moins, mais c'est peut-être un élément d'ecclésiologie, d'ecclésial qui est un peu, qu'on pourrait beaucoup plus développer. Et puisque ça nous enrichit aussi, parce qu'il y a des retours dans la communauté, on raconte, on parle, et puis ça nous pose des questions aussi, ça nous ouvre à d'autres horizons, ça nous universalise, et donc ça nourrit notre tout petite parabole que nous essayons de vivre sur notre colline en Bourgogne, mais nous nous sentons en lien avec beaucoup d'endroits dans le monde, d'une part par des fraternités et des frères, comme Sylvia a dit, qui sont fixes, mais d'autre part par ces visites.